franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Mais qui veut la peau des rhinos? C'est la question que pose Jean-Pierre Vrignot dans l'édito de National Geographic. Qui tue donc les rhinocéros? Réponse, l'ignorance et l'appât du gain. En effet, et malgré l'absence de toute preuve scientifique, de riches chinois et vietnamiens sont persuadés que l'ingestion de poudre de cornes de rhinocéros peut guérir des cancers comme des morsures de serpent. En Asie, le kilo de cornes peut ainsi dépasser les 50 000 euros et à 10 000 km de là, un effet papillon pervers. Des braconniers d'Afrique s'emploient du coup à récolter le plus possible de ces cornes aux vertus prétendument miraculeuses. C'est notamment le cas au Mozambique, de même qu'en Afrique du Sud où le marché a littéralement explosé ces dernières années, sachant que pour s'emparer des cornes, il faut tuer les pachydermes. C'est un véritable massacre et si l'on ne fait rien, d'ici 10 ans, les rhinocéros pourraient avoir totalement disparu de la surface du globe. Les rhinos sont donc des animaux en voie d'extinction, mais c'est aussi le cas d'autres espèces sur la planète. Par exemple, l'espèce de ceux qui soutiennent encore le président de la République. Car oui, François Hollande a encore un fan club.
Et c'est le titre d'ailleurs du papier que signe Ava Jamshidi dans Le Parisien.
Dans les sondages, ils ne sont qu'environ 2%. 2% à se dire très satisfaits de l'action du chef de l'État, mais c'est bien avec eux que l'opération reconquête du président a commencé. Rencontre dans la Drôme avec ses fidèles purs et durs venus pour un meeting du ministre Stéphane Le Foll. 200 militants socialistes, moyenne d'âge 50 ans, parmi eux Nathalie, enseignante en milieu rural. Le président, dit-elle, a redressé les comptes publics et son bilan est bon. Il est même impeccable en termes de valeur et de morale. Son problème, c'est que l'on est dans une société qui ne s'intéresse qu'à l'image. Or, Hollande ne correspond pas à cette ère du temps. On lui reproche beaucoup sa façon de ne jamais prendre de décision, mais pour moi, il est l'incarnation du démocrate par excellence. S'en porte même Bernard, un retraité de 67 ans, tandis qu'Odette, 76 ans, le gratifie d'un 8 sur 10. 8 sur 10 pour son quinquennat, et pourquoi pas 10 sur 10, à cause du mariage pour tous, répond-elle. Même si c'est une espèce en voie de disparition, François Hollande a donc ses fans, qu'on retrouve d'ailleurs également dans Libération ce matin, sous la plume de Laure Breton. Elle a assisté à un dîner de Hollandais, une cinquantaine de membres du mouvement Démocratie 2012, beaucoup d'anciens conseillers ministériels des années 80 et 90, des profs, des avocats, qui tous continuent d'y croire. Ce sera difficile, même extrêmement difficile. Mais François Hollande sera candidat et il gagnera contre Nicolas Sarkozy, se rassure ainsi Jean-Philippe, un juriste trentenaire qui ne voit pas du tout Marine Le Pen l'emporter au second tour, ni même se qualifier pour le second tour.
Mais à la une du journal, c'est un anniversaire.
Les 50 ans du petit livre rouge, livre du pire et de l'oubli, titre Le Quotidien, précisant que le recueil maoïste qui fascina pourtant toute une génération est aujourd'hui presque inconnu de la jeunesse chinoise. Les discours de Mao ont été imprimés à plus d'un milliard d'exemplaires, mais un demi-siècle plus tard, si ce petit bréviaire de la révolution culturelle est encore un objet de culte pour certains en Europe, il ne l'est quasiment plus en Chine. Toute la presse revient par ailleurs sur les obsèques de Shimon Peres. Plus de 90 délégations venues de 70 pays se sont retrouvées hier à Jérusalem, l'occasion pour Barack Obama de faire l'éloge d'un homme qui n'a malheureusement pas pu réaliser son rêve de paix. Le Midi Libre évoque l'ultime hommage du monde entier, tandis que le Parisien publie la photo dans laquelle certains voient un espoir d'une reprise du dialogue israélo-palestinien. Photo de la longue poignée de main à l'issue de la cérémonie entre Mahmoud Abbas, le président palestinien, et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Toute la presse revient également sur les dernières heures de Rosetta, la sonde Rosetta, qui hier a fini sa vie aux côtés de Philae sur la comète 67P. Jusqu'au dernier moment, la mission européenne n'a cessé d'envoyer des données et des photos. La dépêche du Midi évoque la belle mort de la sonde Rosetta. Rosetta s'est éteinte.
Les recettes du Stade de France sont-elles aussi sérieusement en voie de disparition?
C'est ce que nous explique Françoise Inizan dans l'Équipe Magazine. Les fédérations sportives le trouvent bien trop cher à louer. Des exigences exorbitantes. La fédération de rugby menace ainsi de le quitter, le Stade de France, afin de construire son propre stade à Ris-Orangis. La fédération de l'athlétisme le désertera dès l'été et tiendra son meeting de la Ligue de Diamants au Stade Charletti. Quant à la fédération de football, elle l'accuse d'abus de pouvoir et ce n'est pas tout, car les artistes le délestent également, préférant pour leurs grands concerts des enceintes plus modernes. Résultat, une perte en 2015 de 2 millions d'euros. Et l'État n'en peut plus de ce boulet dont le modèle économique est devenu complètement obsolète. Tout avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices, un projet lancé en 1994 et une pelouse qui, 4 ans plus tard, verra les Bleus d'Aimé Jacquet remporter la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, l'avenir du Stade de France est dans le flou absolu, constate le magazine, précisant qu'il est un fardeau de plus en plus lourd pour l'État et partant pour le contribuable. La dette du pays, en revanche, n'est toujours pas en voie de disparition, malheureusement. C'est ce dont s'alarme à la une Le Figaro. La France doit 2170 milliards d'euros à ses créanciers. Depuis 2012, la dette a augmenté de 300 milliards d'euros. Elle représente aujourd'hui plus de 98% du produit intérieur brut. Seule consolation, la France profite encore d'un taux d'emprunt extrêmement bas.
Elle est grande, très grande, même 1m80, poids 63 kilos.
Et elle chausse du 40. Pour présenter Mélania Trump, mieux vaut commencer par ses mensurations, explique d'emblée Jean-Marc Gonin, qui dans le Figaro Magazine signe un portrait très peu flatteur de celle qui pourrait devenir dans quelques semaines la nouvelle première dame des États-Unis. Une femme qui se révèle être avant tout une image. Ancien mannequin slovène de 46 ans, placée comme une décoration à côté de son époux, juste une icône publicitaire qui dans le seul discours important qu'elle a jusque-là prononcé, c'était le 18 juillet dernier devant la convention des Républicains à Cleveland, avait pillé des pans entiers d'une allocution de Michelle Obama. Depuis, elle ne s'exprime quasiment plus publiquement et elle est dès lors une compagne atypique dans l'histoire des présidentielles américaines. D'ordinaire, la femme du candidat joue en effet un rôle essentiel. Elle intervient dans les meetings, elle distille des confidences à la presse. Rien de tout cela avec Mélania. Quant au rôle qu'elle aurait à jouer une fois à la Maison-Blanche, Madame Trump n'en dit pas davantage. Aucun projet caricatif. Elle n'a apparemment pas la fibre d'une dame patronesse et semble donc se satisfaire du registre que lui réserve son mari. Sois belle et surtout tais-toi, ce qui du coup permet à Trump de se retrouver dans un rôle qui lui va comme un gant, le macho hâbleur et bravache, une des recettes de son succès. Si jamais vous trouvez toutefois que Donald Trump est un peu faiblard, que malgré ce qu'il peut dire, il ne va jamais assez loin, le site Slate.fr revient sur la dernière sortie du grand malade qui fait actuellement office de président philippin. Il s'appelle Rodrigo Duterte et il y a quelques semaines, il avait insulté la mère de Barack Obama, provoquant l'annulation d'un voyage du président américain dans son pays. Insulte identique pour les membres de l'ONU quand ils se sont permis de lui parler de droits de l'homme. Et en novembre 2015, il avait proféré les mêmes insanités à propos du pape François parce que sa visite à Manille avait provoqué des embouteillages dans la ville. Mais cette fois, c'est pour une autre déclaration qu'il fait les gros titres de la presse internationale. Roberto Duterte a affirmé qu'il serait heureux de massacrer des millions d'accros à la drogue, et il est allé jusqu'à se comparer à Hitler. Hitler a massacré 3 millions de juifs, a-t-il lancé, le chiffre est cependant plus proche des 6 millions. Et il y a 3 millions d'accros à la drogue dans le pays, je serais heureux de les massacrer. Du reste, c'est ce qu'il a commencé à faire depuis qu'il est arrivé au pouvoir en juin dernier. Plus de 3500 personnes ont été tuées aux Philippines, des dealers, des consommateurs et d'autres tués par erreur. Aux Philippines, la méthode forte, et c'est ainsi que les toxicos sont donc en voie de disparition. Enfin, les vieilles personnes seraient également en voie de disparition, Patricia. Du moins, les personnes qui se sentent vieilles, de moins en moins, vieillir, la réalité et le ressenti. Grande enquête dans La Croix, de nombreux Français se sentent plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes qu'ils ne le sont. Ça s'explique parce que la société nous dit qu'il faut rester jeune, mais aussi parce que tant qu'on se sent utile, on se sent jeune. Vous vous sentez jeune, Patricia ? Vous ne répondez pas. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune, ça laisse se voir.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.